prier pour Jean. J'aimerais poser une question. Qui est responsable de la mort du Seigneur Jésus? Qui est responsable de sa mort? Et en cette saison de Pâques, nous voulons freiner, réfléchir, nous arrêter. Et je vous encourage à lire dans les quatre évangiles ce qu'on appelle la passion. La passion, c'est un terme en fait qui vient du latin, passio, et qui traduit un mot grec qui veut dire souffrance. Et quand on dit la passion de Christ, on parle des souffrances de Christ. Et souvent, on ne s'arrête pas à la croix, on dit que ces souffrances, eh bien, c'est toute cette semaine, lorsqu'il a fait sa route vers Jérusalem, lorsqu'il a été, il a fait son dernier repas, arrêté, et ensuite jugé, condamné, crucifié, et jusqu'à sa résurrection, lorsqu'il est resté dans le séjour des morts pour nos péchés. Tout cela fait partie de sa passion, et dans passion, il y a aussi l'idée d'amour, et on a vu encore ce soir qu'il a mis le comble à son amour en donnant sa vie. Lorsqu'on pense à la mort de Christ, à qui pense-t-on en premier comme responsable? Les Juifs, Pilate, Judas, donc chacun un petit peu son favori, si je puis dire, ou l'inverse. En tout cas, j'aimerais commencer ce soir avec Judas. Judas qui est appelé le traître. Judas l'Iscariote, on le précise parce que il y avait d'autres Jude, hein. Jude, Judas, c'est les mêmes prénoms. Et pour le différencier, il était choisi par Jésus comme l'un des 12 apôtres. Et c'est ça qui, au premier abord, nous étonne. Comment le Seigneur a-t-il choisi quelqu'un qui allait le trahir? Il y a une petite histoire humoristique où quelqu'un prend le choix des 12 apôtres comme si c'était un chef d'entreprise qui devait choisir une équipe. Et il dit franchement, c'est les derniers qu'on aurait choisis, c'est tous des bras cassés. Pierre, l'impétueux qui parle beaucoup mais qui ne fait pas grand-chose, les autres qui se querellent, Judas qui est un... Et alors justement, à la fin, il dit, mais il y en a un qui est vraiment valable, qui aime l'argent et qui va nous faire gagner beaucoup d'argent, c'est Judas, c'est lui qu'il aurait fallu embaucher. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais la sagesse de Dieu a vu autrement. Pourquoi Jésus a-t-il choisi Judas? Est-ce qu'il savait qu'il allait le trahir? En tant que Dieu, oui. En tant qu'homme, peut-être pas. Mais en tout cas, Jésus savait qu'il serait trahi, puisque c'était écrit et prophétisé. Il dit, hein, dans l'évangile de Marc 14, 21, si vous avez votre Bible, hein, vous pouvez regarder aussi avec moi. Marc 14, 21, « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Alors, c'est une expression orientale, hein. Il vaut mieux ne pas être né que de faire ça, que de trahir le Messie. Et pourquoi il dit « s'en va selon ce qui est écrit de lui » ? Parce que, par exemple, si vous prenez le psaume 41, vous avez une prophétie messianique. Psaume 41, verset 10. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Alors, David... écrit ça prophétiquement. David a vécu des trahisons, notamment par son propre fils. Mais il annonçait aussi cette trahison par le Messie. Et qui mange son pain avec moi, rappelez-vous comment Judas a été dévoilé par le Seigneur. C'était pendant le repas, le dernier repas. Et Jésus a dit, celui qui va tremper le pain en même temps que moi, c'est celui-là qui va me trahir. Vous savez qu'il n'y avait pas de fourchette, on mangeait avec des morceaux de pain qu'on trempait pour amener la nourriture et chacun attendait son tour. Mais là, Judas est venu à ce moment-là, a mis sa main dans le plat et il s'est levé aussitôt et il est allé vendre Jésus aux autorités religieuses. Est-ce que ça veut dire que Judas était prédestiné à livrer Jésus? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire autrement puisque c'était écrit dans les prophéties. Est-ce que Dieu avait déterminé, voilà, il y a un homme sur la terre, je l'ai choisi, prédestiné pour qu'il trahisse le Messie? Nous pensons que non. Je pense que non. Nous pensons que non. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu voulait que Judas soit sauvé aussi. Dieu savait par contre qu'il y aurait un traître. C'est pour ça qu'il avait dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Hein. Malheur à celui qui sera ce fameux traître. Mais ce fameux traître pouvait être n'importe qui. Mais Judas s'est porté candidat. La Bible dit hein, que en Luc 22, verset 3, et c'est quelque chose de très grave là qui est écrit au sujet de Judas, Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était au nombre des 12. Satan entra dans Judas. C'est-à-dire que ce n'est même pas un démon hein, qui l'a possédé, c'est Satan lui-même. Et Judas l'a laissé rentrer. Quand ça dit Satan entra dans Judas, c'est il l'a laissé rentrer. Pourquoi Satan a-t-il voulu posséder et diriger, manipuler Judas? C'est parce que Satan voulait éliminer, bien sûr, le Messie. Comme Jésus n'avait pas répondu à ses avances, à ses tentations, hein, il a décidé de l'éliminer et il a utilisé ce traître Judas et il s'est dit, il va être tué et moi, j'aurai gagné la guerre contre Dieu. Et Satan, qui, bien qu'il soit probablement très très intelligent, est en même temps très bête spirituellement. C'est-à-dire, d'abord, il ne voit pas l'avenir comme Dieu voit l'avenir. Et surtout, spirituellement, il est totalement aveuglé par son orgueil. L'orgueil rend totalement aveugle spirituellement. Et il n'a pas vu qu'en mourant, Jésus allait accomplir des prophéties et nous sauver, et gagner, et ressusciter ensuite. Alors il s'est dit, je vais posséder Judas. Mais Judas s'est laissé posséder, et c'est quelque chose d'horrible, d'être celui qui a livré le Messie. Peu avant d'être arrêté, Jésus a dit qu'il avait gardé tous les disciples, c'est en Jean 17, 12, sauf un, le fils de la perdition. Il dit, je les ai tous gardés, sauf un. Judas est appelé le fils de la perdition parce qu'il a été perdu pour l'éternité. Il a livré son âme à Satan. Il a livré Jésus pour quelques pièces d'argent. 30 pièces, c'était le prix d'un esclave. Ce n'était pas une fortune du tout, c'était un salaire de base. Et pour cette somme qui est ridicule, il a livré le Fils de Dieu. On voit comment il a fini, il s'est pendu, et il a été rejeté par Dieu, et il est perdu pour l'éternité. Quelque part, il est responsable de la mort du Seigneur. Et ce n'est pas parce que Dieu l'avait annoncé à l'avance que Judas n'était pas responsable. Judas a laissé Satan entrer dans sa vie, et a laissé l'argent aussi, l'amour de l'argent, pardon, dominer sa conscience. Mais il n'y a pas que Judas, certains ont mentionné les chefs religieux juifs. Et dans la Bible, il est souvent question des juifs, les juifs, les juifs. Quand le Nouveau Testament parle des juifs, il parle des habitants de la Judée. Il ne parle pas du peuple juif en tant que juif, comme on dit aujourd'hui, ah, il est juif, ashkénaze, ou juif séfarade, ou juif. Non. Dans le Nouveau Testament, ça voulait dire un judéen, en fait. Et c'est les traducteurs qui ont mis juif, mais dans le grec, c'est judéen. Et donc, quand il est question des juifs, il est question des habitants de Judée, et notamment de ce petit groupe qui y avait le pouvoir en Israël, les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était une caste juive. Vous connaissez quelle autre caste il y avait aussi? Les pharisiens. Les pharisiens, ils étaient plutôt dans la piété religieuse, mais dans le légalisme. Hein. La religion, les commandements, il fallait tout suivre. Les Sadducéens, c'était plutôt la politique. Alors, ils étaient aussi religieux, mais beaucoup moins. On voit par exemple qu'ils ne croyaient pas à la résurrection, hein, les Sadducéens. On voit ça dans les évangiles. Donc eux, c'était le pouvoir politique, c'était une caste très riche, très puissante, une sorte de lobby qui dirigeait tout sous la coupe des Romains, et notamment le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le gouvernement juif qui était soumis au gouvernement romain, mais qui était quand même un gouvernement. Les Juifs n'ont pas tué Jésus. Jésus est juif. Les premiers disciples étaient tous juifs. Les auteurs du Nouveau Testament, pour la plupart, étaient juifs. Ces juifs sont morts pour l'évangile, pour la foi, pour nous transmettre la parole de Dieu. Donc, on ne doit pas accuser les juifs. Qui a fait ça? Ce sont ce qu'on appelle certains pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est les premiers théologiens à partir du 2e, 3e siècle qui ont commencé à écrire des traités, des commentaires de la Bible. Et certains ont dit, oui, c'est la faute des juifs, c'est eux qui l'ont livré aux autorités, à Pilate. Et il se développait très tôt un antisémitisme qui venait des Romains. Les Romains étaient des antisémites primaires. Et comme il y avait des Romains qui s'étaient convertis au christianisme, ils avaient amené leur antisémitisme avec eux. Et comme les Juifs, en l'an 70, ont été dispersés, les églises sont devenues de plus en plus non-juives, remplies de païens convertis, et donc on a commencé à éliminer les Juifs de l'Église. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette grande séparation catastrophique entre les Juifs et les païens, et les non-Juifs, à cause de l'Église, alors que, selon Éphésiens, l'Église était là pour les réunir. Éphésiens 2, il dit, hein, Dieu a abattu le mur qui séparait les Juifs et les païens. Ce mur, pourquoi? Parce que les Juifs avaient la loi, avaient la connaissance de Yahvé, de l'Éternel, et les païens, eux, n'avaient que des divinités païennes. Et en Jésus, ils pouvaient être réunis. Ça l'a fait au début, mais très vite, les païens sont devenus antisémites, et c'est comme ça qu'ils ont accusé les Juifs. Le Talmud parle de la condamnation d'un homme qui ressemble de très près à Jésus. C'est très intéressant. Le Talmud a été écrit après Jésus-Christ. Il ne faut pas penser que le Talmud est écrit avant Jésus-Christ. C'est écrit après, entre l'an 70 et 200 à peu près. Voilà ce qu'il écrit. La veille de Pessah, donc de Pâques, ils pendirent Yeshu, donc Jésus. Mais il y avait beaucoup de Jésus. Est-ce que c'est Jésus de Nazareth? Ce n'est pas précisé. Pendant 40 jours, avant qu'ait lieu l'exécution, un héros se déplaça en criant « Il va être lapidé parce qu'il a pratiqué la sorcellerie et il a conduit Israël à l'apostasie. Quiconque peut dire quelque chose en sa faveur, qu'il vienne et plaide pour lui. » Mais personne ne s'avança. Alors il fut pendu la veille de Pessah. Ulla, donc un des interlocuteurs dans le Talmud, réplique « Mais penses-tu que c'était un homme qu'on puisse défendre? N'était-il pas un messite? » Un messite, c'est un séducteur, un démon, hein, dont les Écritures disent « Tu ne l'épargneras pas, tu ne le cacheras pas. » « Oui, mais avec Yeshu, répond l'autre, c'était différent parce qu'il était de famille royale. » Donc ça se trouve dans le Talmud babylonien du Sanhédrin 43a. Il parle d'un Yeshu qui est exécuté avant Pâques, qui est de famille royale. Je ne pense pas qu'il y en ait 50. Je pense que ça correspond à Jésus de Nazareth qui a été exécuté au moment de Pâques ou peu avant le sabbat de Pâques, la veille du sabbat de Pâques. Mais ils disent qu'il a été lapidé, donc ça c'est faux, ou qu'il allait être lapidé et qu'il a été pendu. Mais qu'il allait être lapidé, ça peut s'expliquer par le fait que Jésus était accusé de blasphème et les blasphémateurs devaient être lapidés. Donc c'est intéressant, ça confirme le récit des évangiles d'une certaine façon, et ça montre que pour les juifs de l'époque, Jésus était un démon, un séducteur, un apostat qui voulait entraîner Israël dans l'erreur et l'apostasie. Les vrais responsables chez les juifs, c'est le souverain sacrificateur, Anne et Caïphe. Ils travaillaient tous les deux de concert, ils étaient très corrompus selon Flavius Joseph. Anne était un sadducéen, mondain, habile, corrompu, très peu spirituel. Les membres du Sanhédrin étaient presque tous sadducéens, des hommes politiques, ambitieux. Le peuple les détestait d'ailleurs. Et on voit que le procès de Jésus est fait dans l'illégalité, en pleine nuit. ce qui est totalement illégal. On ne peut pas juger quelqu'un la nuit. Un procès doit avoir lieu en plein jour, il doit y avoir des témoins officiels. Et ils ont appelé des témoins, mais aucun témoin ne leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. Et finalement, ils se sont adressés à Jésus. Comme ils ne trouvaient pas un témoin digne de foi, ils se sont adressés à Jésus. Et Jésus leur a dit, mais oui, je suis le Messie. Oui, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Et là, ils ont dit, c'en est trop, il blasphème. Voilà, on n'a pas besoin d'autres témoins. Il a blasphémé, il est donc digne de mort. Parce que le fait de dire, je suis Dieu, hein, de dire, je vais être assis à la droite de Dieu, c'était pour eux un blasphème. Pourquoi il y a une responsabilité des chefs religieux, quand même? D'abord, c'est qu'ils acceptent que Judas leur livre Jésus pour 30 pièces. Ce sont des soldats du Sanhédrin qui viennent arrêter Jésus dans le jardin, Luc 22. Ce sont les sacrificateurs qui condamnent Jésus à mort pour blasphème, Matthieu 26. Et au petit matin, le Sanhédrin se réunit, confirme la condamnation à mort. Et comme ils n'avaient pas le droit d'exécuter quelqu'un, ils devaient le donner aux Romains. Ce sont les Romains qui devaient exécuter la sentence de mort. Ce sont eux qui ont persuadé la foule de relâcher Barabbas et non Jésus et de le faire crucifier pour sédition contre César. Et Jésus dit d'ailleurs en Jean 19, 11, porte une accusation contre ces chefs religieux. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, Pilate, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Qui l'avait livré à Pilate? Le Sanhédrin, hein, le gouvernement juif, les chefs religieux juifs. Donc Jésus condamne hein, ces chefs religieux. Il dit, toi, tu n'es qu'un pion dans l'histoire, hein, Pilate. Alors que c'était quand même le préfet, le gouverneur, hein, et qui se pensait très important. Mais Jésus lui dit, toi, tu es juste là au milieu. Mais ceux qui commettent un plus grand péché, ce sont ceux qui m'ont livré à toi. Donc on voit qu'il y a une responsabilité hein, des chefs religieux dans la mort de Christ. Mais il y a aussi Pilate et les Romains. C'est quand même Pilate qui l'a fait fouetter et qui l'a fait crucifier. Jusqu'au dernier moment, Pilate aurait pu le relâcher et les Juifs n'auraient rien pu faire. Ils n'avaient pas le droit d'exécuter à mort quelqu'un. Et Pilate aurait pu faire protéger Jésus, il aurait pu l'exfiltrer ou faire plein de choses. Mais Pilate a eu peur de la foule, hein, vraiment. À chaque fête de Pâques, il y avait des révoltes qui commençaient à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Pâques, c'est la fête... de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la libération de qui? D'Israël, de l'esclavage, de l'oppression de l'ennemi. Et donc, ils avaient ces Romains qui les opprimaient. Donc, chaque fête de Pâques, ils faisaient une association. Dieu va ouvrir la mer Rouge et va nous sortir de cette oppression des Romains. Et donc, il y avait des Juifs par-ci, par-là. Et Barabbas faisait partie de ces Juifs. Hein. Il a été condamné, arrêté pour meurtre et sédition, Barabbas. C'est-à-dire que pendant la période de Pâques, il a dû faire un complot, un attentat terroriste hein, contre les Romains. Il a tué un homme. C'est pour ça qu'il a été arrêté et emprisonné, Barabbas. Et Jésus a été accusé aussi de... fomenter, de s'appeler roi, alors qu'il n'y avait qu'un seul roi, c'était César, normalement, et puis il y avait Hérode aussi, hein, mais surtout César, pour les Romains. Et donc, Pilate avait peur chaque fête de Pâques, il se dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire encore cette année hein, il avait vraiment cette crainte. Mais Pilate est décrit par les historiens, notamment par Flavius Joseph, un historien juif, comme quelqu'un de cruel, d'intraitable, qui haïssait les Juifs, il avait massacré plusieurs fois des groupes de Juifs qui l'embêtaient. Il essayait d'éliminer toute religion en Israël, mais une fois il avait dû céder. Il voulait que dans le temple, il y ait des bannières avec les aigles romains et le portrait, l'effigie de l'empereur. Et les Juifs ont dit, c'est de l'idolâtrie, nous n'acceptons pas d'avoir des aigles romains et l'effigie de l'empereur dans le parvis du temple. Et il avait cédé, parce qu'ils avaient fait un tel esclandre qu'il avait eu peur. Et là, il y a cette foule qui arrive aux portes, hein, de son tribunal. Il y a les autorités juives qui disent, voilà, nous te livrons un homme qu'il faut condamner à mort. Et Pilate a beau interroger Jésus, il ne trouve rien. Il dit, mais pourquoi ils veulent le condamner, cet homme? Il n'a rien fait. Et sa femme, en plus, vient lui dire, hein. Mais finalement, Pilate cède. Et Pilate porte une responsabilité. Il se lave les mains en pensant qu'il se débarrasse de l'affaire, hein, mais il ne se débarrasse de rien. Et on peut aussi se rapprocher, hein, de Pilate. Il y a des fois où on fait des choses sous la pression, par peur, par crainte des hommes, et non pas par conviction, par la vérité. Un chrétien doit avoir le courage de ses convictions et il ne doit pas céder devant la menace ou devant la peur. Et on ne doit pas se laver les mains en disant oh, ben, je le fais, mais ce n'est pas de ma faute. Non, c'est ou je ne le fais pas, ou je le fais et j'accepte la responsabilité. Mais on ne peut pas faire quelque chose en disant je m'en lave les mains. Cette expression est restée en français, hein, je m'en lave les mains. Mais devant Dieu, on ne peut pas se laver les mains. Et il y a cette légende, c'est tout à fait une légende, hein, que Pilate a fini sa vie à se laver les mains en permanence, hein, parce qu'il avait le sang de Jésus sur ses mains qui l'obsédait. La réalité, c'est que Pilate, peu de temps après, a été viré de la Judée pour mauvaise conduite. Il a été dénoncé à l'empereur et il a fini sa vie complètement oublié et perdu. Et il y a eu un jugement, on peut dire, sur la vie de Pilate après ce qui s'est passé. Qui est responsable de la mort de Jésus? Est-ce que c'est seulement Judas? Est-ce que c'est les chefs religieux? Est-ce que c'est Pilate? Et la foule alors? La foule qui a crié « Crucifie-le !» qui a impressionné Pilate justement. S'il n'y avait pas eu cette foule-là autour des chefs religieux, il aurait dit aux chefs religieux, écoutez, franchement, laissez-moi tranquille. Vous me bassinez avec vos histoires de religion, de blasphème. Moi, je suis le gouverneur de Rome, je ne m'occupe pas de vos religions. Mais il y avait cette foule-là, probablement derrière des grilles, qui faisait un vacarme. Et Pilate s'est dit, si je ne fais pas ce qu'ils disent, ils vont tout casser, et c'est moi ensuite qui vais payer les pots cassés. Il y a un écrivain qui a parlé de la foule. Il dit, la foule n'est influencée que par des excitations exagérées. Quiconque veut agir sur elle n'a pas besoin de donner à ses arguments un caractère logique. Il doit simplement présenter à la foule des images aux couleurs les plus criardes. Il doit exagérer ou il doit répéter sans cesse la même chose. La foule est aussi autoritaire qu'intolérante. Les foules respectent la force, mais sont médiocrement impressionnées par la bonté, qui est considérée comme une forme de faiblesse. Ce que la foule exige de ses héros, c'est la force et même la violence. Elle veut être dominée, la foule. Elle veut être subjuguée. Elle veut craindre son maître. Les foules n'ont jamais connu la soif de vérité. Elles demandent des illusions auxquelles elles ne peuvent pas renoncer. Voilà. C'est intéressant ce qu'a dit cet écrivain. C'est qu'une foule ne cherche pas la vérité. Une foule, ce qu'elle veut, c'est un entraînement, c'est une excitation. Et puis, s'il y en a un ou deux qui dirigent la foule, tout le monde va suivre, parce que c'est comme ça qu'une foule fonctionne. Et si on veut réfléchir, il faut sortir de la foule, hein. Et là, cette foule a bien suivi tout ça. Il y a eu deux ou trois personnes placées par les chefs religieux qui ont crié « Crucifie-le! » Et tout le monde a repris en chœur, comme une chorale, hein. Probablement que la majorité de ces gens ne pensaient pas ce qu'ils disaient ou ne réalisaient pas. Simplement, ils suivaient la foule, ils suivaient le mouvement. Et dans des foules, hein, il y a des gens qui ont fait des choses violentes, hein. Je pense en mai 68, il y a des gens qui étaient tout à fait pacifiques. Ils se sont engagés dans les barricades et tout ça. Ils sont devenus des vrais brigands, hein, des gens très violents parce que la foule vous entraîne à la violence. Cette foule, en Matthieu 27, 25, crie lorsqu'elle voit passer Jésus avec sa croix. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. C'est terrible, ça, hein, cette phrase. Ça veut dire que la foule s'accusait elle-même, hein, en disant que si cet homme était juste et qu'on l'a accusé injustement, que son sang retombe sur nous. En Israël, hein, cette expression était assez commune. On la trouve en 2 Samuel 1,16, par exemple. Et en fait, chez les Juifs, il y avait deux choses qui pouvaient racheter un homme. Il y avait les petits péchés, les petites choses de la vie quotidienne qu'on pouvait racheter avec de l'argent. On pouvait aller au temple et avec de l'argent, racheter une petite faute. Mais dès que c'était un péché moral ou spirituel, il fallait le sang. Et la Bible dit presque tout, hein, d'après la loi, est purifié par le sang. Et là, c'était le sang. Le sang de Jésus allait crier, comme le sang de Caïn, vous vous rappelez peut-être dans Genèse, hein, le sang d'Abel, qui a été assassiné par son frère Caïn, criait, hein, de la terre. Et le sang de Jésus a crié aussi contre cette foule. Mais heureusement, Jésus a dit une phrase sur la croix. Il a dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et grâce à cette phrase, je pense que cette foule a été pardonnée. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. D'un côté, ils étaient totalement responsables. Ils n'avaient qu'à pas suivre. Ils ont crié quand même. Personne ne les a forcés à crier, crucifie-le. Mais d'une certaine façon, ils ne réalisaient pas qui était vraiment Jésus et ce qu'ils étaient en train de faire et le plan de Dieu dans lequel ils étaient une petite partie. Et Jésus a demandé le pardon de Dieu sur cette foule et sur tous ceux qui l'ont condamné et crucifié d'ailleurs. Mais si on regarde de près le Nouveau Testament, qui est responsable de la mort de Christ ? Eh bien, c'est nous aussi. Marc 10, 45 dit que Jésus a donné sa vie en rançon pour nous. La rançon, hein, ça peut faire penser à une prise d'otage. Hein. Nous étions otages du péché, otages de la condamnation, de la colère de Dieu à cause de nos péchés. Et Christ est venu payer la rançon pour qu'on soit libérés de cette colère et de cette perdition de ce péché, cette culpabilité où nous étions. Et c'est quand même à cause de nous que Christ a donné sa vie. Si on n'avait pas péché, il n'aurait pas eu besoin de venir. Et même, c'est écrit dans Ésaïe 53, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité, nos péchés sont retombés, hein, enfin, sur lui. Et il les a pris sur lui. Et nous avons une part. Et c'est ça qui me touche à Pâques. C'est que je me dis, le Seigneur est venu mourir pour moi aussi, pour moi et pour tous, hein, mais pour moi. Je ne pourrai jamais oublier cela, que c'est à cause de mes péchés qu'il a donné sa vie. Jésus n'a pas donné sa vie juste pour avoir une attitude héroïque, parce qu'il était un peu dans un élan d'amour, je ne sais pas, quelconque. Jésus a donné sa vie parce que c'était le seul moyen de nous sauver. Il fallait que son sang coule sur la croix pour que nous soyons lavés de nos péchés. Et c'est à cause de moi que son sang a coulé. Il a pris ma place. Et je suis responsable de la mort du Seigneur. Et même si on ne doit pas se sentir coupable que le Seigneur a été crucifié, on ne doit jamais oublier. C'est pour ça que le Seigneur a institué d'ailleurs, hein, le repas du Seigneur, la Sainte Cène, pour qu'on n'oublie jamais que c'est grâce à lui qu'on est sauvé, que c'est à cause de nous qu'il est mort, en prenant nos péchés. Mais pour terminer ce soir, d'une certaine façon, personne n'est responsable de la mort de Christ parce que Christ a donné sa vie. Le Père a livré son Fils, dit la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors j'ai lu sur des forums... c'est injuste, Dieu a donné son fils, il a tué son fils. Même Abraham n'a pas fait ça, hein. Abraham allait tuer son fils, mais Dieu l'a remplacé, mais Dieu, lui, n'a pas épargné son propre fils. Et c'est écrit, hein, il n'a pas épargné son propre fils. Mais c'est injuste, pourquoi il tue son fils? Est-ce que vous tueriez votre fils, si vous aviez un fils? Et là, c'est la logique rationnelle, mais qui ne comprend pas les choses de Dieu, hein. Effectivement, si je devais choisir entre ma vie et celle de mon fils, je vais donner ma vie. Mais Jésus n'est pas fils au sens qu'il est une progéniture de Dieu, il est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui se donne en fait à travers Jésus. Mais quand il est dit il a donné son fils, ça veut dire qu'il s'est donné lui-même, il a donné ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire le cœur de son cœur pour nous. Il n'y avait rien de plus cher dans l'univers, hein, que le Fils de Dieu. N'y avait rien de plus précieux que son sang précieux. Dieu n'a pas donné des anges, il n'a pas donné une planète pour nous. Il n'a pas donné des animaux, il en a donné dans l'Ancien Testament, mais ça ne suffisait pas. Il a donné sa propre vie, sa vie éternelle, sa vie impérissable, sa vie pure, sa vie sainte. Et il a accepté de le faire gratuitement, par amour pour nous. Jésus a dit lui-même, personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ce n'est pas que le Père a livré son fils et que le pauvre Jésus a dû se faire crucifier. Jésus dit, je donne ma vie de moi-même. Et il a dû batailler pour ça, puisque dans le jardin, il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais le Seigneur, par amour pour nous, encore une fois, et par obéissance au Père, est allé jusqu'au bout. Et celui qui a livré sa vie, c'est le Seigneur. C'est lui qui, gratuitement, a décidé de mourir pour nos péchés. Franchement, c'est incompréhensible, tellement c'est grand, cet amour de Dieu, qu'il ait pu mourir pour nous, lui qui est la vie, lui qui est la source de vie, lui qui est le juste juge. Avez-vous déjà vu un juge qui prend la place d'un coupable, qui se lève de sa chaise et qui dit, je vais aller en prison à ta place? Ça n'existe pas. Pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on a déjà vu un innocent prendre la place d'un coupable? Non. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Lui juste est mort pour des injustes. Et combien nous pouvons adorer le Seigneur et le louer. Je propose que on ait un temps justement que peut-être on chante les strophes qui restent et que on termine par la prière. Si tu veux bien venir, Sylvain.